Et bonjour à tous. En septembre dernier, l'annulation du contrat passé avec l'Australie pour la vente de 12 sous-marins français a été un coup de tonnerre. Paris a haussé le ton, Joe Biden a reconnu une maladresse. Mais que sait-on vraiment de ce qui s'est passé? Bonjour Philippe Reltien.
Bonjour.
C'est ce que vous allez nous dire. Vous allez nous raconter aujourd'hui l'histoire secrète de la perte de ce contrat qui portait tout de même sur 56 milliards d'euros.
France Inter. Secret d'info. Jacques Monin.
C'est vraiment, en bon français, un coup dans le dos. Nous avions établi avec l'Australie une relation de confiance. Cette confiance est trahie. Cette décision unilatérale, brutale, imprévisible, ça ressemble beaucoup à ce que faisait M. Trump.
Voilà, ça c'est ce que disait Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, le 16 septembre dernier. La France vient d'apprendre que le contrat qu'elle avait passé avec l'Australie pour la vente de 12 sous-marins est cassé au profit des États-Unis et de la Grande-Bretagne. C'est le début d'une crise diplomatique dont on ressent d'ailleurs toujours les effets aujourd'hui. Maintenant, comment un tel coup de canif a pu avoir lieu? Qu'est-ce qui s'est joué en coulisses? Qui était à la manœuvre? C'est donc ce qu'on va essayer de voir avec vous, Philippe. Mais la première des choses à faire peut-être, c'est de rappeler que tout avait commencé par une lune de miel entre la France et l'Australie.
Oui, et pour le mesurer, il faut se replonger en 2015. Deux pays sont alors en concurrence avec la France pour essayer d'emporter ce contrat, le Japon et l'Allemagne. Et au final, c'est Naval Group avec son sous-marin, le Barracuda, qui l'emporte. On appelle alors ce contrat le contrat du siècle. Il porte sur 12 sous-marins pour un coût total de 56 milliards d'euros. À l'époque, donc, tout va bien. Écoutez Malcolm Turnbull, le Premier ministre d'alors, il nous raconte comment les choses se sont passées.
En 2015, il y a eu trois offres, une de l'Allemagne, une du Japon et une de la France. L'offre de la France reprenait les plans du dernier sous-marin à propulsion nucléaire qu'on a appelé le Barracuda Shortfin, mais avec une propulsion diesel électrique. Donc le fait qu'il ne s'agisse pas d'une propulsion nucléaire était une demande expresse du gouvernement australien. À la fin de l'appel d'offres, la conclusion était que l'offre française était la meilleure et donc on a passé un contrat avec la France.
Ouais, la France décroche donc le contrat. Mais pourquoi à ce moment-là les Australiens ne veulent pas de propulsion nucléaire, Philippe? Pourquoi on ne leur a pas proposé dès le début ce que les Américains leur ont finalement donné?
Eh bien non pas parce que la France ne veut pas exporter son savoir-faire nucléaire, comme on l'a beaucoup entendu, mais tout simplement parce qu'à l'époque l'Australie n'était pas prête. Écoutez à ce sujet Hervé Guillou, l'ex-PDG de Naval Group. C'est une question qui a été plusieurs fois soulevée, mais qui a toujours été écartée.
Dès le début des années 2000, ce débat a été ouvert. Il a été tranché une première fois. Il a été tranché une deuxième fois en 2010 sur le constat qu'en fait l'Australie n'avait pas la maturité pour lancer tout de suite un programme de sous-marins nucléaires. Puis ça a été réarbitré une troisième fois en 2015, quand la question s'est posée, ils ont retranché en faveur d'un sous-marin classique et l'appel d'offres qui a été sorti était parfaitement explicite sur le fait que ce qu'ils voulaient, c'était un sous-marin à propulsion classique.
Ouais, donc la France a répondu à la demande qui lui était faite, et ce d'autant plus d'ailleurs que fournir des sous-marins nucléaires, c'est pas si simple que ça.
Eh bien non, parce que si vous voulez du nucléaire, il faut aussi disposer de toute une infrastructure de maintenance à terre et de spécialistes pour manipuler l'uranium que vous mettez dans le réacteur. Bref, c'est toute une ingénierie coûteuse et complexe dont ne dispose pas l'Australie qu'il aurait fallu créer. C'est ce que nous explique l'amiral Christophe Razuc, qui fut jusqu'en août 2020 le chef d'état-major de la Marine nationale.
La propulsion nucléaire, c'est quelque chose d'assez compliqué, techniquement, d'assez compliqué industriellement. C'est-à-dire qu'on peut très bien acheter un bateau à propulsion nucléaire. Encore faut-il être capable de l'entretenir, d'avoir une base industrielle suffisamment large pour entretenir ce bateau, pour former son équipage.
Et tout ça, on aurait pu préparer le terrain.
Cette hypothèse, elle est sur la table depuis le départ et a été écartée pour mille raisons, dont notamment celle de la base technologique industrielle en Australie.
Ah, et donc les Australiens n'avaient pas les moyens d'entretenir des sous-marins nucléaires?
Non, et ça c'est le Premier ministre de l'époque, Malcolm Turnbull, qui me l'a confirmé.
La raison pour laquelle nous n'avons pas opté pour la propulsion nucléaire en 2015-2016 était que nous étions conscients que nous n'avions ni l'expertise, ni les infrastructures, ni l'expérience pour être capables nous-mêmes d'entretenir des navires à propulsion nucléaire. Par conséquent, on a opté pour des sous-marins électriques. Mais l'un des avantages du contrat français était que nous avions la possibilité de passer plus tard à la propulsion nucléaire tout en conservant la même infrastructure.
Ah oui, donc on a vendu un sous-marin qui aurait pu être upgradé en quelque sorte.
C'est tout à fait ça. Mais même sans propulsion nucléaire, le Barracuda, c'est quand même un des sous-marins les plus modernes et les plus redoutables de la planète. C'est du moins ce que soutient l'amiral Christophe Brazuc.
Avec le Barracuda, on a vraiment un sous-marin extrêmement performant, un sous-marin qui va plus loin, un sous-marin qui est plus endurant, un sous-marin qui est plus silencieux que ses prédécesseurs et que les autres sous-marins de la même génération. C'est un chasseur, ce sous-marin. Il va se tapir dans l'océan et il va détecter d'autres sous-marins, d'autres bateaux. Il va s'approcher des côtes, il va être capable de recueillir du renseignement et c'est un frappeur. Parce que ce sous-marin est capable d'emporter et de tirer des missiles de croisière, parce qu'il est capable d'emporter et de relâcher des forces spéciales à proximité des côtes, il va ouvrir de nouvelles capacités offensives.
Et donc sur le papier, c'était un contrat qui convenait, c'est ce qu'on entend aux Australiens. Et ce d'autant plus, Philippe, qu'à l'époque, la France n'était pas seule dans cette affaire. Les États-Unis étaient déjà dans la boucle.
Oui, ça peut paraître étonnant aujourd'hui, mais on marche alors main dans la main avec une entreprise américaine. On va même parler de sous-marins franco-américains, car le contrat porte en fait sur un partenariat. La France construira le sous-marin, mais son cerveau électronique, celui qui commandera les armes, ses torpilles, ses missiles, sera fourni par l'entreprise américaine Lockheed Martin. C'est ce que rappelle Michel Cabirol, qui est rédacteur en chef à La Tribune et qui a particulièrement suivi ce dossier.
C'est pas un contrat français, le contrat des sous-marins en Australie. C'est un contrat qui a été gagné en tandem entre Naval Group et Lockheed Martin, qui est un Américain très puissant, qui est le premier groupe mondial dans la défense. Et si Naval Group a gagné, c'est parce qu'il y avait un accord tacite entre la France et les États-Unis pour dire est-ce que on a le droit d'y aller? Est-ce que on a le droit de candidater? Est-ce que si on gagne, vous nous laissez gagner?
Ils ont dit oui. Le résultat, c'est pas d'objection.
Pas d'objection.
Et donc, à cette époque, tout va bien avec les Américains.
En effet, et ce d'autant plus que l'état-major de la marine australienne a pour principal conseiller un Américain. Un ancien secrétaire à la marine des États-Unis, sous la présidence Obama, un certain professeur Donald Winter. Et lui aussi, au début, soutient ce contrat, si l'on en croit encore l'ancien premier ministre australien.
Donald Winter présidait le conseil d'experts pour la construction navale. Et il y avait aussi avec lui dans le groupe d'anciens amiraux de l'US Navy. Ils ont tous approuvé l'offre française. Donc, il n'y avait aucun conflit d'intérêts. L'Amérique est notre allié. Le sous-marin de la classe attaque sur lequel nous devions travailler serait construit selon des plans français, mais avec une expertise américaine pour ce qui relevait des systèmes de gestion de combat. Donc, à ce stade, tout le monde était d'accord.
Tout le monde est donc d'accord. On est maintenant en 2016, mais à peine le contrat signé, les nuages commencent à s'amonceler.
Secret d'info sur France Inter.
Bien, alors Philippe Reltien, essayons maintenant de comprendre pourquoi et comment les choses ont dérapé. Et pour ça, il faut faire d'abord un peu de géopolitique.
Oui, parce que ce qui va faire capoter ce contrat, c'est d'abord un climat qui va se tendre entre l'Australie et la Chine. Et ça, c'est relativement nouveau, explique Emmanuel Véron, qui est géographe, enseignant-chercheur à l'INALCO et à l'École navale, un spécialiste de la zone Indo-Pacifique.
Quand on regarde le développement des relations depuis 20 ans, on avait une entente qui était assez manifeste entre Pékin et Canberra, notamment autour de ressources naturelles, de minerais, de gaz, etc. Et puis suivi très rapidement par un certain nombre de partenariats académiques, universitaires, la diaspora, des petites PME, etc. jusqu'à la compromission avérée d'un certain nombre de parlementaires australiens dans des affaires de corruption vis-à-vis de la Chine, et en fait derrière un projet et un dessein supposé tactique ou stratégique de Pékin de recrutement de parlementaires, au sens services spéciaux du terme, de recrutement, jusqu'à de l'ingérence au sein des affaires politiques australiennes, avec des technologies, etc., etc., donc des affaires d'espionnage, qui ont, ces dernières années, en parallèle du Covid, opéré un revirement dans l'opinion australienne, voyant de plus en plus la Chine comme une menace.
Mais une menace fantasmée ou réelle ?
Bien réelle. Un exemple, la Chine a construit des îlots artificiels qui lui servent de base militaire et de base de renseignement. Écoutez Philippe Lecor, enseignant à la Kennedy School de Harvard et membre de la Fondation Carnegie pour la paix internationale. Il nous raconte ce qu'il observait il y a quelques années.
On voyait la Chine qui devenait de plus en plus active dans la région, notamment à travers la mer de Chine, la construction de ces îlots, les menaces.
Avec des pistes, oui, avec des stations d'écoute. Oui.
Voilà, absolument, une présence de plus en plus visible, qui s'était faite d'ailleurs, je dois dire, au nez et à la barbe de l'administration Obama, puisque vous vous souvenez que le président Xi Jinping avait promis à Barack Obama qu'il ne construirait pas d'îlots artificiels. Ça faisait partie d'un deal.
Ouais, ce deal étant rompu, peu à peu un sentiment anti-chinois monte à Canberra, alors que dans le même temps, Philippe, les États-Unis perçoivent eux aussi de plus en plus la Chine comme une menace.
En effet, car peu à peu la rivalité Est-Ouest s'est doublée d'un face-à-face économique entre Washington et Pékin. Ces dernières années, le ton est monté entre les deux grandes puissances. Et du coup, l'idée de s'implanter militairement chez leur allié australien a germé dans la tête des Américains. Écoutez encore à ce sujet le chercheur Emmanuel Véron.
Je crois que c'est important de bien voir que les États-Unis souhaitent développer une base de sous-marins nucléaires d'attaque sur le flanc ouest de l'Australie. Que l'Australie serait une sorte de porte-avions, comme la Grande-Bretagne l'a été pendant la Seconde Guerre mondiale, vis-à-vis d'un conflit potentiel avec la Chine dans les 10, 15, 20 prochaines années.
Et donc, peu à peu, les conditions d'une installation militaire américaine en Australie se précisent.
Oui, et ce d'autant plus que les États-Unis disposent déjà de pions dans l'administration à Canberra.
Des pions, c'est-à-dire ?
Eh bien, vous avez notamment en Australie, au sein de la marine, d'anciens hauts gradés américains à la retraite, qui sont autant de relais pour Washington, dont notamment le fameux Donald Winter, dont on parlait tout à l'heure, comme le souligne encore Philippe Lecor.
Vous avez malheureusement une prolifération d'anciens officiels, d'anciens militaires qui aujourd'hui occupent des fonctions de conseil dans différents gouvernements. Donc ça n'est pas totalement inconnu, ce genre de situation. Par contre, ce qui est un peu plus ambigu, c'est effectivement le fait qu'il ait joué un rôle de conseil
contre le plan précédent.
Voilà, et qui soit en fait resté dans son rôle de conseil sous la formule actuelle. Donc là, il y a une question qui se pose.
Ouais, qui se pose sur l'influence que peuvent exercer d'anciens hauts gradés américains qui pantouflent en Australie. Alors ça, c'est dans l'administration à Canberra, mais à Washington, il y a d'autres personnages qui vont être des hommes clés du torpillage du contrat français.
En effet, et là, il faut qu'on s'arrête quelques minutes sur le profil d'un homme en particulier qui s'appelle Kurt Campbell.
Kurt Campbell, alors expliquez-nous qui est Kurt Campbell.
C'est un ancien chef des opérations navales au Pentagone sous les administrations George Bush père et Bill Clinton. Donc un bon connaisseur des arcanes de la défense. Et il est aujourd'hui conseiller à la sécurité nationale du président Biden. C'est le stratège washingtonien de la nouvelle politique américaine envers l'Asie. Et il a réussi à convaincre l'actuel président Biden de mettre le paquet, militairement parlant, dans le Pacifique, en Australie, pour endiguer la Chine. Écoutez Philippe Lecor nous en dire plus sur son rôle aujourd'hui.
Kurt Campbell n'est pas un homme du Pentagone, même s'il est très axé sur les questions de défense. Il est plutôt du département d'État et aujourd'hui, il est au Conseil national de sécurité. Il est le monsieur Indo-Pacifique du président Joe Biden. Il dirige toute une équipe. C'est un poste, bon, ça a pas l'air très important comme ça, mais en fait, c'est un super ministre qui coiffe d'une certaine manière les activités du département d'État et du Pentagone dans la région.
Et donc, c'est lui qui aurait manœuvré en coulisses pour faire capoter le contrat français ?
Eh bien, c'est en tout cas une hypothèse que retient Philippe Lecor.
On peut supposer qu'il y a eu des contacts entre Kurt Campbell et les Australiens bien avant l'élection. de Joe Biden. Kurt Campbell est allé en Australie. Les think tankers australiens, dont le patron du Lowy Institute, qui s'appelle Michael Fullilove, viennent régulièrement à Washington. Donc, si vous voulez, les liens entre l'Australie et les États-Unis se sont renforcés, on peut dire, ces dernières années.
Oui, sur fond de tension, on l'a vu, et d'alliance, donc, objective contre le voisin chinois.
France Inter, secret d'info, Jacques Monin.
Alors le décor est planté, le contexte et les hommes sont en place. Maintenant, à quel moment les choses basculent vraiment, Philippe Reltien ? C'est-à-dire à quel moment il a été envisagé de rompre le contrat français ?
Eh bien apparemment ce serait au début de l'année 2020, juste après que la Cour des comptes australienne ait informé le Sénat que le coût du contrat français allait doubler. Et le point culminant, c'est une réunion qui va se tenir entre le patron de la marine anglaise et les autorités australiennes en mars 2021 à Londres, dans les locaux de la mission australienne. C'est à ce moment-là que, pour la première fois, Canberra aurait secrètement annoncé sa décision de changer de cheval. C'est ce que nous raconte en tout cas depuis Londres Larissa Brown, spécialiste des questions de défense au journal The Times.
L'amiral Tony Radakin était le chef de la Royal Navy britannique à ce moment-là. Il a reçu une invitation totalement à l'improviste à se rendre au Haut Commissariat d'Australie à Londres. Il n'avait aucune idée du sujet de la réunion et il a rencontré Michael Noonan, qui est le vice-amiral de la Royal Navy australienne. Et c'est dans cette réunion que, pour la première fois, ce dernier a évoqué l'idée d'un coup de pouce britannique et américain à l'Australie, pour développer une nouvelle flotte de sous-marins à propulsion nucléaire.
Ah oui, donc ce seraient les Australiens qui en auraient parlé les premiers aux Anglais.
En effet, à ce moment-là, l'Australie s'inquiète, on l'a vu, des velléités chinoises et elle souhaite être mieux protégée par son vieil allié américain. Mais surtout, en août 2018, il y a eu des élections en Australie et on a un nouveau Premier ministre, Scott Morrison, qui ne se sent plus engagé par les promesses de son prédécesseur.
C'est donc ce Scott Morrison qui donne le feu vert à l'opération. Maintenant, une fois qu'ils sont approchés par les Australiens, les Anglais, qu'est-ce qu'ils font ?
Eh bien, ils vont jouer un rôle d'intermédiaire. Et ils le font d'autant plus facilement qu'ils se sentent redevables vis-à-vis de leur allié américain. Car en fait, sans eux, ils n'auraient pas pu terminer la construction de leur propre sous-marin nucléaire. C'est ce que nous rappelle Michel Cabirol, rédacteur en chef de la Tribune.
L'industrie britannique n'avait plus les compétences pour terminer ses sous-marins nucléaires d'attaque. Donc, du coup, effectivement, les Américains ont envoyé des ingénieurs sur place pour...
Des centaines, j'ai entendu.
Oui, exactement, des centaines, vous avez raison, d'ingénieurs pour terminer ces sous-marins nucléaires d'attaque britanniques pour qu'ils soient un jour opérationnels, parce que l'industrie britannique avait perdu beaucoup de compétences sur ce type.
Et donc, ça une dette, Boris Johnson.
C'est une hypothèse que je ne connaissais pas, mais c'est une hypothèse qui me paraît assez plausible. Et donc, les Britanniques ont dû souffler le mot aux Américains qui ont acheté l'idée, et puis ça s'est enclenché comme ça, certainement. C'est une hypothèse, hein, c'est une hypothèse de travail.
Elle serait assez logique. La logique, c'est que les Anglais ont fini leur programme de sous-marins nucléaires avec les Américains, donc leur doivent quelque part quelque chose.
C'est possible.
Oui, c'est possible. Mais si on résume, ça voudrait dire finalement que AUKUS, ce serait une alliance de circonstances dans laquelle chacun retrouve ses petits. Les Australiens se sentent mieux protégés, les Américains renforcent leur position en mer de Chine et les Anglais, eux, renvoient l'ascenseur aux Américains.
C'est sans doute ça, car pour Boris Johnson, l'occasion était trop belle de jouer les go-between et de redorer son blason. Ce qui le motive alors, c'est de donner du lustre à une alliance qui a été négligée par Obama et Trump. En plein Brexit et pendant la crise du Covid, il s'offre donc une victoire diplomatique, analyse encore notre consoeur anglaise Larissa Brown, une victoire dont il n'est pas peu fier.
Je crois qu'il était extrêmement satisfait de ce qui a été présenté comme la plus grande avancée dans les relations stratégiques pour la Grande-Bretagne depuis des décennies. Et c'est lui qui était responsable. Donc oui, du point de vue de Boris Johnson, c'était une opération gagnant-gagnant. Il pouvait rétablir des relations fortes avec les États-Unis après qu'il ait quitté l'Union européenne.
Oui, enfin, cette victoire, c'est un peu quand même une victoire de façade, non ?
Alors ça, l'avenir nous le dira, puisque le nouveau deal, à ce stade, n'est qu'une promesse. Il n'y aura pas de contrat formel avant 18 mois. Tout reste donc à faire. Mais si la Grande-Bretagne a saisi une opportunité diplomatique, pour Philippe Lecor, elle a effectivement essentiellement joué un rôle de supplétif.
Le Royaume-Uni, on peut dire, s'est accroché au wagon de ce projet qui est un peu un projet salvateur pour un Premier ministre en difficulté, qui essaye de terminer le processus du Brexit avec beaucoup de difficultés, qui globalement ne fait pas l'unanimité, qui fait énormément de gaffes, etc. Sachant que globalement, le Royaume-Uni est en difficulté, étant maintenant isolé et avait besoin de trouver des alliés. Et son allié naturel, ce qui n'a pas toujours été le cas, y compris sous la présidence Obama, ce sont évidemment les États-Unis.
Ouais, donc on renforce des liens qui s'étaient distendus. Maintenant, les Anglais ont quand même d'autres objectifs dans cette affaire.
Oui, alors d'abord, les Britanniques ont rallongé de 20 ans le bail qui permet aux États-Unis d'utiliser leur base de Diego Garcia dans l'océan Indien. Londres a aussi renforcé sa présence en Australie en envoyant là-bas son dernier modèle de sous-marin nucléaire. Et la Grande-Bretagne, évidemment, espère bien équiper les nouveaux sous-marins australiens. D'ailleurs, à peine 48 heures après le deal annoncé avec les Américains, les groupes anglais BAE Systems et Rolls-Royce se sont positionnés sur ce nouveau contrat.
Ouais, tout est donc en place pour écarter la France. Maintenant, comment le piège s'est-il refermé ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans quelques instants.
Funny girl, you look so unassuming right up until the room you're captivating starts to fill with gut-busting laughter. You're transformed into a five-foot Cleopatra. Funny girl, your schedule's pretty crazy, doing interviews for the new live action Kathy. Could you pencil in an industry outside? Funny knocked me out when you charmed.
your sea like we were old friends. Funny girl.
On se croirait dans une comédie musicale américaine des années 50, hein, avec les cuivres et les cordes. C'était Funny Girl, extrait du prochain album de Father John Misty, dont la sortie est prévue pour le 8 avril prochain.
Secret d'info, Jacques Monin, sur France Inter.
Et retour à notre récit sur fond de tension avec la Chine. L'Australie utilise la Grande-Bretagne pour approcher les États-Unis, ce qui aboutira à casser le contrat français. Des conseillers américains, on l'a vu, comme Donald Winter à Canberra ou Kurt Campbell à Washington, sont à la manœuvre. Et à partir de là, Philippe Reltien, eh bien pour la France, les choses vont se gâter.
Effectivement, et dès le mois d'août 2016, on assiste à un premier tir de semonce avec ce qu'on appelle les Scorpion Leaks.
Les Scorpion Leaks, alors c'est quoi les Scorpion Leaks ?
Mais c'est une fuite de données qui concerne la vente d'un autre modèle de sous-marin français à l'Inde, le Scorpion. 22 000 pages qui détaillent notamment les plans des systèmes de torpilles et de communication se retrouvent dans la presse australienne. Michel Cabirol de la Tribune nous raconte plus précisément ce qui s'est passé.
Ce qui s'est passé, c'est que un personnage central de l'opposition australienne, qui s'appelle Monsieur Rex Patrick, un ancien sous-marinier spécialiste de l'acoustique, pour en tout cas une filiale du rival de Naval Group, a récupéré ces données qui avaient été laissées par des consultants visiblement français qui formaient des sous-mariniers malaisiens. Il a alerté le gouvernement australien pour dire que les Français n'étaient pas sérieux, machin. Et donc il a donné ça à The Australian, qui en a fait les choux gras pour essayer de déstabiliser le gouvernement australien en place.
Cela dit, cette déstabilisation fera chou blanc puisqu'elle n'aura aucune conséquence immédiate. À cette époque, le contrat vient juste d'être signé avec la France.
Oui, en tout cas, c'est une première alerte. Et ensuite, des retards vont s'accumuler.
En effet, en février 2020, le programme des sous-marins français a pris 9 mois de retard, selon la Cour des comptes australienne. Le gouvernement australien soutiendra plus tard que c'est une des raisons de la rupture du contrat. Mais si ça traîne, c'est aussi parce qu'il est alors très difficile pour les ingénieurs français de se rendre en Australie, comme le souligne encore Michel Cabirol.
Il faut quand même se rappeler le contexte sanitaire de l'époque. Je veux dire, à partir de mars 2020, le monde s'est refermé complètement. Donc, il était compliqué de faire partir des gens de Naval Group pour aller voir ce qui se passait en Australie. Et d'ailleurs, l'Australie avait les mesures les plus contraignantes pour arriver sur leur sol. Donc, pourquoi il y avait ces 9 mois de retard ? Bah, d'abord, parce qu'il y avait la Covid-19. Et puis, dans tous les grands programmes de cette envergure-là, il y a toujours des retards. Le fait même de former des ouvriers australiens pour qu'ils puissent faire de la tôle, bah, ça demande une spécialisation très très pointue. Donc ça se fait pas en claquant des doigts.
Ouais, donc lui relativise ses retards. Maintenant, on s'en préoccupe tout de même de cette petite musique qui monte contre la France.
Oui, et entre le 6 février et le 6 mars 2021, en pleine période Covid, le nouveau PDG de Naval Group, Pierre-Éric Pommelet, sent bien, lui, qu'il se passe quelque chose là-bas, même s'il ne sait pas précisément quoi. Pour resserrer les liens et rassurer son partenaire, il décide donc de se rendre en Australie. Et preuve qu'il ne prend pas les choses à la légère, il devra faire 3 semaines de quarantaine pour pouvoir rencontrer ses interlocuteurs.
Pierre-Éric Pommelet, le PDG de Naval Group en Australie, il a rencontré tous les responsables politiques, aussi bien nationaux que locaux, en mars. On pensait, très honnêtement, moi le premier, que ce contrat était vraiment bien enclenché après la visite de Monsieur Pommelet en Australie.
Vous voyez cette date que vous donnez, février-mars 2021 ? C'est la date de la rencontre des deux amiraux à Londres. Celle où le message est passé. En fait, il est passé aux Anglais qui vont le passer aux Américains. Bon, on laisse tomber le contrat français, on passe à autre chose.
Sauf que il y avait très très peu de personnes qui savaient. Donc, les rencontres de M. Pommelet avec les autorités locales et certains politiques nationaux, ces personnes-là ne savaient pas à ce moment-là.
Donc, le PDG de Naval Group s'adresse à ses partenaires sans savoir ce qui se trame dans son dos.
En effet, ça va continuer comme ça jusqu'au 15 septembre dernier, date de l'annonce par la Maison Blanche du nouveau deal. Même en juin, alors qu'Emmanuel Macron participe au G7 en Cornouailles, ni Boris Johnson, ni Joe Biden ne lui disent quoi que ce soit sur ce qui est en train de se tramer. Pire, alors que le président français est présent, une réunion secrète a lieu entre Américains, Anglais et Australiens pour sceller le sort du contrat français. C'est quasiment du jamais vu, raconte encore Michel Cabirol.
Ce qui est hors norme, c'est que pendant le G7, dans la salle à côté où il y avait Macron, le Premier ministre australien, le président américain et le Premier ministre britannique, négociaient déjà, enfin, continuaient de négocier. Donc c'est assez incroyable.
C'est mieux que ça, puisqu'ils sont sortis prendre le... Il faisait beau. Et donc ils se sont mis, Biden et Macron, à côté l'un de l'autre sur des chaises longues. Et ils parlaient de l'OTAN.
Oui, bien sûr, non, mais c'est incroyable. Je veux dire, c'est une histoire de dingue. Comment on peut jouer un tel coup à un allié comme la France?
Ouais, c'est assez surréaliste et ça va donc se passer comme ça jusqu'au bout.
Et oui, jusqu'au tout dernier moment, à la mi-septembre. Et selon notre consoeur du Times, Larissa Brown, c'est parce que jusqu'au dernier jour, les Australiens n'étaient pas certains que les Américains les suivraient jusqu'au bout.
C'est évident qu'ils ont gardé le secret très longtemps, parce que les Australiens ne voulaient rien révéler tant qu'ils ne seraient pas certains du résultat à 100%. Et les gens à qui j'en ai parlé ici disaient qu'ils n'étaient pas sûrs à 100% que les Américains les suivraient. Et donc, ils attendaient une confirmation américaine sans équivoque qu'ils étaient bien décidés à jouer le jeu avant d'en parler aux Français. Je crois que ça n'a pas été simple de garder le secret sur toute cette affaire. En tout cas, je sais qu'au Royaume-Uni en particulier, très peu de gens, seulement une poignée, savaient de quoi ils retournaient, ce qui est plutôt inhabituel.
Oui, autre fait inhabituel, bien que les jeux soient faits, l'Australie continue de nier.
Effectivement, là encore, on a assisté à un jeu de dupes, comme le rappelle notre confrère de la Tribune, Michel Cabirol.
Le jour même de l'arrêt du programme, le 15 septembre, le matin même, Naval Group recevait un courrier en disant bah, « tout est bon, pour nous, on passe à la suite ». Donc ce courrier du matin du 15 septembre, c'est la preuve irréfragable qu'il y a une duplicité incroyable du gouvernement australien, du gouvernement britannique et du gouvernement américain.
Et ce jour-là, un tweet qui passe alors assez inaperçu nous en apprend, Philippe, un peu plus sur le calendrier de l'opération.
Oui, c'est un tweet qui est posté depuis les États-Unis et son auteur n'a pas échappé à l'enseignant-chercheur de la Kennedy School, Philippe Lecor. Ce tweet de victoire est posté dans l'entourage du fameux conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, Kurt Campbell, dont on parlait au début de cette émission.
Monsieur Campbell, il a son adjoint qui s'appelle Ross Doshi, très important, qui a triomphalement, le 15 septembre 2021, écrit un tweet disant, voilà, 6 mois de travail, point d'exclamation. Et donc, monsieur Ross Doshi, qui est un jeune homme très brillant, qui a un PhD de Harvard, je crois, ou de Yale, qui est l'un des proches adjoints collaborateurs, étroit de Kurt Campbell depuis des années, est l'homme qui a coordonné toute cette action avec les Australiens et avec les Britanniques.
Et lorsqu'on apprend ça, c'est donc la stupeur et la colère du côté français. Et la suite, on la connaît. Mais ce qu'on sait en revanche assez peu, Philippe, c'est que ce n'est pas la première fois qu'on se fait ainsi doubler sur un contrat de sous-marin.
Non, il y a effectivement un précédent qui remonte à une quarantaine d'années. Les États-Unis avaient fait quasiment la même chose, mais c'était alors pour le compte des Canadiens et non pas des Australiens. Écoutez Max Moulin, ingénieur en génie atomique, capitaine de vaisseau et co-auteur de la Bible navale intitulée « Flotte de combat ». Il se souvient de cet épisode.
On assiste à un phénomène un petit peu analogue à celui qui s'est passé dans les années 80 avec la proposition de vente à la marine canadienne de sous-marins nucléaires d'attaque type Ruby par les Français. L'affaire était assez bien avancée. La marine canadienne, comme le pouvoir politique, était tout à fait convaincue de l'intérêt de cette solution, jusqu'au moment où les Américains sont intervenus en faisant une contre-proposition de prêt ou de mise à disposition de sous-marins nucléaires américains. Donc les Canadiens, du coup, ont laissé tomber le contrat français, n'ont jamais eu en retour de SNA américain et ont dû acheter des sous-marins classiques d'occasion britanniques qui ont rencontré un certain nombre de difficultés majeures car ils n'étaient pas en état parfait.
Ah oui, donc les Canadiens ont dû s'en mordre les doigts finalement.
Oui, mais rien ne dit que dans l'affaire australienne, la nôtre, les choses se passeront différemment. Car il ne faut pas oublier qu'on est sur un contrat qui porte sur une cinquantaine d'années. Et d'ici là, il peut couler beaucoup d'eau sous les ponts et beaucoup d'encre à propos du nucléaire. C'est en tout cas ce que pense Philippe Lecor.
Beaucoup d'Australiens n'ont pas compris cette décision et ont trouvé que la parole de l'Australie avait été quand même bafouée. Et c'est d'ailleurs ce qu'ont dit les deux prédécesseurs de Morrison. Donc la messe n'est pas dite pour M. Morrison, qui n'a pas un très bon bilan et qui a essayé peut-être de le sauver à travers ce revirement quand même magistral. Et donc il est possible que l'opposition gagne, auquel cas... Je ne dirais pas qu'on repart à zéro, parce que les États-Unis sont toujours là et ont toujours les mêmes ambitions. Mais en tout cas, il est possible qu'on renégocie. Et quoi qu'il arrive, la France et l'Union européenne n'ont pas non plus dit leur dernier mot, parce que, comme vous le savez, il y a une stratégie indo-pacifique de l'Union européenne, poussée par la France, et une volonté d'exister dans cette région qui va à l'encontre de ce que disent les fameux analystes de Washington, qui voudraient cantonner les Européens en Afrique du Nord, en Europe de l'Est, etc.
Donc l'affaire n'est peut-être pas terminée. Maintenant, cette histoire est aussi révélatrice d'une évolution assez paradoxale. L'Australie a finalement opté pour un sous-marin nucléaire qui utilise un combustible bien plus radioactif que le combustible français. Le pays va donc devoir se doter d'équipements équivalents à ceux d'une centrale nucléaire. Une révolution culturelle pour une nation qui a toujours été réfractaire au nucléaire, notamment à cause, souvenez-vous, des essais français dans le Pacifique.
Oui, comme quoi, rien n'est jamais acquis. Et ce sera d'ailleurs le mot de la fin, Philippe Reltien. Alors merci pour cette enquête très éclairante sur les coulisses de cette affaire qui nous a quand même pas mal retourné. Alors je précise que votre enquête, on peut la réécouter, on peut la lire, on peut la podcaster sur franceinter.fr, sur l'appli France Inter et sur l'appli Radio France. Secret d'info, c'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission a été préparée par Mélissa Foust et réalisée par Christophe Humbert. C'est Jean-Baptiste Audibert qui a choisi la musique et à la technique, il y avait Alix Barrois. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à samedi prochain.